simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Didier Gadea du mouvement de défense des exploitants familiaux, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton organisation?
Alors c'est un syndicat qui a été créé en 1959 suite à, si vous voulez, une fracture dans la FNSEA, puisqu'à la sortie de la guerre il n'y avait qu'un seul syndicat où étaient regroupés l'ensemble des paysans, les petits, moyens et les gros. Et lorsque l'Union européenne a été mise en place en 1957 avec le traité de Rome, et donc en place aussi la PAC, la politique agricole commune, qui est la seule politique commune dans l'Union européenne. La question était de dire mais quel chemin on prend. Donc il y en avait deux. Soit on gardait le maximum de fermes, ok, le maximum de paysans, soit on éliminait le maximum de paysans pour agrandir les exploitations. C'est la deuxième orientation qu'a pris la FNSEA. Et à partir de là, les petits exploitants familiaux sont sortis de la FNSEA et ont créé le MODEF. Et depuis, le MODEF se bat depuis plus de 60 ans, sur un axe clair qui est le prix, le revenu, par le prix, et notamment des prix planchers fixés et garantis par l'État.
Vous représentez très peu d'agriculteurs?
Effectivement, de toutes les organisations syndicales, nous sommes la dernière. On est le petit poussé, on va dire. Mais néanmoins, bon, on représente quand même une histoire et un combat, et surtout une revendication dont on a vu quand même que les grands syndicats flirtaient un peu avec cette revendication de prix. Et en tout cas, la base, elle le ressort.
Mais on peut revenir un tout petit peu sur la FNSEA parce que bon, on a vu qu'ils avaient accompagné la politique des gouvernements et la politique européenne depuis la fin de la guerre, qu'ils ont favorisé la fin des petits exploitants, que ce soit dans les chambres ou ailleurs. Je veux dire, en général, les petits exploitants sont spoliés pour agrandir les fermes. Donc ça, c'est la réalité qu'on vit depuis la fin de la guerre, puisque le monde paysan est en chute libre.
Ah oui, je vais donner quelques chiffres parce que j'aime bien les chiffres. Donc voilà, à la sortie de la guerre, nous étions à peu près 2,5 millions de paysans. Lors du traité de Maastricht, nous étions 1 million. Lors du référendum pour la Constitution, en 2005, nous étions tombés à 500 000. Aujourd'hui, nous sommes 390 000. Et le gouvernement, ainsi que tous les syndicats, quand je dis tous, c'est tous, savent très bien qu'on va perdre 150 000 agriculteurs dans les 2-3 ans qui viennent. Autrement dit, vu la pyramide des âges, c'est carrément la fin du monde agricole en France, du monde paysan en France, si rien n'est fait. Et c'est d'ailleurs cette dimension-là qui est aussi ressortie dans les manifestations, où on voyait des gens dire mais c'est la dernière chance, si là on se loupe, on est mort, parce qu'ils ont bien conscience que effectivement S'il n'y a pas du revenu pour les paysans, nous allons tomber en dessous des 200 000 paysans en France. Et 200 000 paysans, oh ben, c'est fini, quoi.
Ouais, ouais, ça veut dire que c'est l'agroalimentaire là, qui va tout rafler.
Tout.
Ok. Ça veut dire aussi, dans nos assiettes, on va bouffer un peu de la merde.
Bah, déjà, vous en mangez, ouais, mais là, vous allez encore plus manger. Et j'aime bien le film « L'aile ou la cuisse ». J'adore ce film. Et à un moment donné, on voit De Funès qui mange un mec lui force avec un fusil, lui force à manger de la bouffe industrielle. Et il lui dit « c'est pas bon ». Il dit « non ». Et bien, il lui dit « il va falloir t'habituer ». Donc, en fait, c'était un peu précurseur. Mais oui, en fait, ce qui est en train de se jouer là, c'est au-delà des questions personnelles des agriculteurs. Pardon, je suis vigneron, c'est pour ça que je dis vigneron, mais au-delà des questions personnelles de survie, il se pose même une question au-dessus, celle de une France. Est-ce qu'une France en paysan, ça reste une France telle qu'on la connaît? J'ai des doutes.
Alors, on va revenir plus précisément sur la question du revenu. Comment améliorer concrètement le revenu aujourd'hui des paysans ?
Alors, c'est très simple, hein. Il suffit de remettre ce qui existait avant. En fait, il faut faire le contraire à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose, ça ne marche pas. Et les annonces là, qu'a fait le Premier ministre hier et ses ministres vont aggraver encore plus. Et d'ailleurs, les annonces de M. le Premier ministre, il faut dire la vérité, hein, c'est les annonces de la FNSEA, hein, va aggraver encore plus le système puisque tout est cadré sur la concurrence libre et non faussée et tout est cadré par le marché. Alors qu'il suffit de prendre l'inverse, c'est-à-dire qu'on impose au marché une loi pour fixer des prix, par la loi, non, l'État qui fixe les prix des matières agricoles et surtout peut-être le plus important encore, les marges. Par un système qui existait, qui a été liquidé en 86, en mai 1986, qui est le coefficient multiplicateur. Donc, c'est-à-dire que les marges étant cadrées, ça donne un revenu pour le paysan, et au bout, si vous voulez, ça donne pour le consommateur des prix d'achat qui ne sont pas sous l'inflation et la spéculation.
On va revenir un petit peu sur le mouvement lui-même, puisqu'en fait, il a démarré plus dans le sud de la France par les vignerons d'ailleurs, donc tu es bien placé pour le savoir, puisque dans un premier temps, il y avait cette histoire de panneaux retournés.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, alors les vignerons, les GIA, les jeunes agriculteurs, alors ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu ces panneaux à l'envers. Maintenant, il faut regarder la chronologie, parce que c'est très important. Au mois de décembre, vous avez donc la FNSEA. Alors la FNSEA, au ministère, elle est chez elle. Hein. Bon, quand ils nous font croire que non, ils sont chez eux là-bas. Ouais. D'ailleurs, ils se tutoient avec le ministre. Hein. Donc ils sont chez eux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui désignent le ministre souvent. Ils ont décidé un certain nombre de choses, notamment la question du GNR, etc., etc.
C'est quoi GNR ? Excuse-moi, GNR.
Le GNR, c'est le gasoil non routier.
Oui. Oui, parce qu'en fait, vous bénéficiez d'un prix particulier sur le gasoil agricole.
Voilà, une défiscalisation sur ce gasoil dit propre, alors qu'il n'est pas plus propre qu'un autre, mais non. Bon, ça, c'est une autre question.
C'est une autre affaire.
Voilà. Et donc, si vous voulez, puis il ne faut pas oublier que 2024 est une année un peu spéciale dans le monde agricole, puisque en juin 2024, il y a les européennes. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une politique agricole commune européenne, donc c'est important. Et ensuite, il y a les élections professionnelles, les chambres d'agriculture. Et donc, ils ont lancé ça, si vous voulez, pour dire, ben voilà, on n'est pas content, on marche sur la tête, ta 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 ta. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que d'autres se saisiraient de ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé à Toulouse, où il y a eu une réunion organisée par la FNSEA qui ne s'est pas très bien passée. Et des jeunes qui étaient là ont dit non, maintenant ça suffit, on fait un barrage. Et c'est à partir de là que, on va dire, le mouvement a explosé. Il y a tellement de colère dans le monde agricole, surtout chez les éleveurs, que ça a tout fédéré, ça a tout cristallisé. Et c'est parti de là. Et maintenant, la FNSEA, son travail a été de reprendre la main pour refaire rentrer tout le monde dans les fermes.
Ouais, c'est ce qu'on, bah, de toute manière, on l'a assez bien compris, puisque là, la semaine dernière, il y a eu une première vague de négociations avec Macron, où la FNSEA a dit « bon, c'est bon, là, maintenant, on rentre tous et personne n'est... » Et ça a continué de plus belle. Là, avec les annonces de Attal, là, la FNSEA a dit « bon, maintenant, on lève les blocages ». Et là, on ne sait pas trop où on en est aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés quand même.
Pourquoi ça a duré ? Parce que le Premier ministre a fait une erreur. Il est allé à Toulouse, enfin, en région toulousaine, faire ses annonces sur une botte de paille. Ouais. Vous voyez l'image ?
Ridicule.
Bon. Voilà. Là, la FNSEA, elle a dit « pas question ». Le seul interlocuteur, c'est lui. Il n'est pas question qu'un et d'autre. Et donc, il lui a fait payer, en mettant en pression, une semaine de plus. Et je vous ai dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections professionnelles. Moi, vous savez, la situation qu'on vit aujourd'hui, elle était la même l'année dernière. Sauf que l'année dernière, il y a, vous voyez, bon. Mais là, il faut montrer les muscles, il faut montrer qui est le patron. Et le patron, c'est la FNSEA. C'est une démonstration de force. Mais ceci dit, ça va laisser quand même des... Ça laissera des traces, hein. Faut pas croire, hein. Ça va pas être si simple que ça.
C'est clair. Vu le déchaînement de colère qu'il y a pu avoir, c'est clair que là, et puis c'est ce que tu disais, il y a une question de tout simplement de survie, hein, pour la plupart des exploitants. Et peut-être même de la part des petits exploitants ou des gens qui n'étaient pas syndiqués, le fait de se rendre compte que la FNSEA ne les représente pas.
Alors, je pense que les paysans, enfin, il y a deux catégories. Hein. Il y a ceux qui sont de père en fils dans la FNSEA, on va dire ça comme ça, hein, et qui connaissent la maison, et qui savent très bien de quoi il en retourne. Hein. Bon. Après, bon, il y en a qui ont... moi, je vois, il y a des gars qui sont en rupture maintenant avec ce syndicat. Bon, c'est pas une grosse masse de paysans, mais bon, il y en a. Parce qu'ils se rendent compte que effectivement, c'est quand même un syndicat qui met en musique toute la politique qui se retourne contre eux.
Clair.
Donc voilà, et cette crise a mis ça c'est un révélateur, parce que quand ils ont appris que la question du GNR, c'était le patron de la FNSEA, qui est lui-même patron du groupe Avril, qui pèse 9 milliards. 9 milliards, pour donner un ordre d'idée, c'est l'ensemble de la PAC française, hein, à lui tout seul, là autant. Et qui fournit justement le GNR, qui fabrique du GNR, ils se sont dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Bon. Et puis, il y a une autre partie des agriculteurs qui ne sont pas du tout d'accord avec la FNSEA, ni de près, ni de loin.
Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce que le gouvernement a promis ?
Oui, justement, on vient de faire le point là. Alors, il y a deux choses. On va séparer les deux. Il y a pour l'ensemble de l'agriculture et ensuite pour la viticulture. Parce que ouais. Là, il y a deux choses. Je vous expliquerai pourquoi.
Ok.
Donc, sur l'ensemble de l'agriculture, c'est peanuts. Voilà. Ouais. Alors là aussi, je vais donner des chiffres. ils annoncent, alors bien sûr, les annonces, alors 80 millions d'euros là, 150 millions d'euros pour les éleveurs. Bon, 150 millions d'euros pour les éleveurs, écoute bien, ça fait par chaque exploitation, ça fait 1000 euros. Voilà. Mais ça fait 150 millions d'euros de suite. Voilà. Et bon, c'est rien, c'est peanuts. Et la loi Egalim, là, on a bien rigolé parce que je pense qu'ils doivent prendre des cours de théâtre quand ils font la formation de ministre, parce que on dirait qu'ils tombent des nues quand on leur apprend des choses, alors qu'ils savent exactement tout, ne fera rien, ne changera rien à la situation, faut pas rêver. Hein. Et en plus, il se pose un autre problème, c'est que la revendication première des agriculteurs, c'est de vivre de son travail par des prix. On est d'accord ?
Ouais.
Bien. Alors, si tu donnes des prix pour qu'ils vivent, il n'y a plus besoin d'aide. Ouais, c'est logique. Bon. Donc pourquoi ils donnent des aides ? Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les prix. Mm. Ça, c'est un premier point. Quant à la viticulture, alors ça, c'est à part. Parce que là, la viticulture, elle est dans la PAC, mais à part. C'est une enveloppe spécifique qu'on appelle l'organisation commune du marché du vin. On est à côté. Et le ministre va annoncer un plan d'arrachage de 100 000 hectares. Donc, il est dans les roues aujourd'hui. Il est chez moi, dans ma cave coopérative en plus. Je ne peux pas y aller parce que je suis en convalescence. Donc, je ne peux pas me déplacer. Donc, ils vont annoncer un plan d'arrachage entre 80 000 et 100 000 hectares ce qui est énorme. Ça représente 12% de la superficie des viticoles en France, hein, ce qui représente à peu près 4 millions d'hectolitres. Et ça n'arrangera rien, parce que des campagnes d'arrachage, moi j'ai connu ça toute ma vie, de vignerons pratiquement, et ça n'a jamais réglé quoi que ce soit.
D'accord, mais je ne comprends pas. Donc du coup, il va y avoir un nombre d'hectares arrachés de pieds de vigne.
Oui.
Donc, et qu'est-ce que vont faire ces viticulteurs à la place ?
Eh bien, ils iront soit à la retraite, soit ils iront se pendre. Hein. Il n'y aura pas trop de discussion.
Parce qu'on ne leur propose pas d'autres solutions.
Malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Hein. Parce que tu veux faire quoi à la place ? La vigne est implantée chez nous en Méditerranée, tu ne peux pas faire de l'élevage, hein. Ça c'est pas possible. Si tu veux, le fait d'arracher de la vigne à cette dimension-là, hein, on est d'accord, à cette dimension-là, c'est un véritable plan de destruction de la viticulture, comme on en a connu dans le passé. Hein. Soi-disant qu'en augmentant la qualité du vin, en faisant toute la politique qu'ils nous ont demandé, nous on n'a rien demandé, nous on a obéi. Peut-être trop, d'ailleurs. Mais on a augmenté la qualité du vin, on a fait des efforts considérables, etc., des investissements colossaux pour, au final, arracher 100 000 hectares. Bon. Et 100 000 hectares aujourd'hui, hein. Et demain.
Mais ça veut dire que le prix du vin va augmenter ?
Ben non, le prix du vin ne montera pas. D'accord. C'est ceux qui nous font croire. Ils nous font croire que c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande. Tu ne peux pas avoir d'offres et demandes quand tu as des négociants qui sont en position de monopole privé. C'est eux qui font la loi. Là, j'ai un directeur d'une grosse coopérative viticole qui m'a appelé du Beaujolais. Le gars, il m'appelle, il appelle le MODEF, hein. Il appelle pas la FNSEA, ni la CONF, ni la CR, il appelle le plus petit syndicat. Ça doit interroger quand même. Pour m'alerter en me disant, mais là, le négociant, là, il est en train de nous tuer. Voilà. Alors moi, mes jeunes, ils ne pourront pas s'en sortir. On va devoir m'obliger d'arracher les vignes. Parce qu'ils baissent de 15% le prix. Or, déjà qu'ils étaient justes. Il faut savoir qu'en viticulture, les bénéfices sont autour de 15-20%. Hein.
Là, on a vu que la Confédération paysanne, par exemple, elle décide de continuer. Il y a 6 blocages aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme, donc le 2 février, sur des grosses plateformes hein, de distribution, me semble-t-il, notamment Leclerc. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, à ton avis, en sachant que, par exemple, contrairement à la FNSEA qui a plutôt viré les syndicats de travailleurs, n'a pas donné suite au soutien hein, que pouvait apporter ou la CGT, FO, enfin d'autres syndicats de travailleurs. La CONF, elle, appelle plutôt à un soutien large et massif de la population et des syndicats.
Ça, c'est très important parce que la question, elle ne se réglera pas de façon technique ou professionnelle. Elle se réglera politiquement. On ne peut pas se régler autrement. Sinon, ça se saurait. Hein. Voilà. Alors, c'est très bien que la FNSEA et les jeunes agriculteurs aient refusé l'appui des syndicats de travailleurs. C'est très, très bien. Parce qu'au moins, comme ça, bah, ça met la limite, hein, franche et nette. Moi, j'ai vu l'appel de la CGT, puisqu'on a été contacté dans le département de l'Hérault et ailleurs. Hein, on a été contacté notamment par la CGT pour faire quelque chose ensemble, pour travailler ensemble sur une intersyndicale. Avec la Confédération paysanne aussi, et Sud aussi qui nous a contactés. Bon, peut-être d'autres nous rejoindront, hein, je pourrais voir. Et ça, c'est à mon avis le point le plus intéressant. Parce que, alors, je ne sais pas ce que ça donnera, on ne peut pas savoir hein, dans l'avenir, mais faisons un peu de politique, enfin, de syndicalisme politique fiction. Si on reste dans le cadre, simplement faire des barrages entre les paysans, il ne faut pas rêver, à un moment donné, le printemps va arriver, l'herbe va pousser, il va falloir labourer, il va falloir semer, les vaches, il va falloir s'en occuper plus sérieusement, etc. etc. On ne pourra pas tenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais la situation, elle va rester. Ça, c'est indéniable. Va ça peut-être s'améliorer pendant quelques mois, hein, le temps que passent les élections professionnelles, comme par hasard, et ensuite on retombera. Mais le travail qu'on aura fait avec les organisations de travailleurs, elle restera. Parce que pour nous, au MODEF, il y a une continuité là-dedans. C'est-à-dire que entre le fait que il faut imaginer une ligne, comme j'avais dit aux collègues là, tu imagines une ligne Et de chaque bout de cette ligne, il y a d'un côté les producteurs et de l'autre côté ceux qui achètent. Mmh. Et au milieu, tous les autres qui se gavent sur notre dos. Mmh. Et bien, en fait, l'intersyndicale, c'est relier les deux lignes.
Ouais, surtout que en fait, il y a une période pas si lointaine où la question de rassembler les travailleurs, on assiste à une prolétarisation du monde paysan.
Ouais, alors, oui, bien sûr. Là, moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On a des photos, d'ailleurs, c'est rigolo. On a des photos de manifestations du MODEF qui étaient avec des manifestations d'ouvriers dans les années 70-80, où il y avait des banderoles où il y avait écrit gouvernement ouvrier paysan, par exemple. Donc, oui, c'est vrai, à l'époque. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, quand même. Hein. On s'aperçoit que cette question-là a été grugée par des considérations écologiques et environnementales. Quoi. Donc aujourd'hui, on a un discours qui est souvent, dès qu'on parle d'agriculture, on nous colle l'écologie au milieu. Voilà. Mm-hmm. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70, par exemple. Mm-hmm. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait revenir, on va dire, aux fondamentaux, parce que quel que soit le sujet, passe par ces fondamentaux que sont, comme tu dis, hein, l'unité des prolétaires. Bon, les paysans ne sont pas des prolétaires. Hein. C'est une classe à qui on doit permettre d'avoir une alliance ouvrière avec les ouvriers. Quoi. Moi, je le vois comme ça, une alliance ouvrière et paysanne. Voilà, un truc comme ça. Quoi. Mais de toute manière, et là, c'est rigolo parce qu'on en a parlé tout à l'heure entre nous. Parce que sur les points on a fait quelques manifs et on est allé soutenir des cortèges. On avait des jeunes, beaucoup de jeunes, et on s'est aperçu d'une chose, c'est que les jeunes étaient complètement dépolitisés, quoi. Les jeunes paysans. Et dès qu'on commençait à discuter avec eux sur le fond, justement, les prix, les marges, parce que les prix, c'est de la politique, hein, et bien là, ils changeaient complètement le discours, quoi. Donc, on voit qu'il y a du travail à ce niveau à faire.
Puis la colère, elle est palpable dans tous les secteurs.
Oui.
Donc, autant rassembler toutes ces colères et essayer de changer un tant soit peu ce monde qui nous accule de plus en plus et à de plus en plus nombreux à la pauvreté.
Je ne crie pas sur les toits, mais il y a quelque chose qui me révolte, c'est voir des gens dormir dehors. C'est tout simplement, on voit un président de la République se gaver et faire des repas en Versailles, aller voir le roi de Suède, un queue de pif, et tu vois des enfants qui sont dans la rue.
Non, et puis même le fait que là, il y a une grosse partie de la population qui ne fait plus qu'un repas par jour, tellement ils n'ont plus d'argent ou qui n'arrivent même plus à se chauffer l'hiver, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc on est quand même dans une situation, et des paysans qui travaillent un nombre d'heures hallucinantes par jour pour même pas le SMIC.
Oui. Surtout les éleveurs. C'est eux. Alors, c'est ça qui est mal fait, mais c'est comme ça. Les éleveurs, c'est la double, triple, quadruple peine. C'est eux qui font le plus gros travail. C'est eux qui touchent le moins, qui sont les moins bien rémunérés. Et en fait, c'est eux qui polluent le moins. Dans le sens où je me comprends. C'est-à-dire que c'est eux qui préservent les bocages, qui préservent les prairies. Tu vois, au contrario d'un céréalier dans la bosse, qui lui a détruit toutes les haies, qui s'emmerdent pas, qui travaillent, qui travaillent même pas, ils donnent ça à des entreprises privées pour labourer, semer. Parce que céréalier, c'est un métier de feignant, hein, tu fais rien.
Hein. Enfin, tu laboures,
tu sèmes, tu récoltes, c'est tout, hein, tu traites et tu récoltes. Et tu peux partir en vacances, voilà. Et c'est ces céréaliers-là qui contrôlent la FNSEA.
Et qui se font, qui se prennent le plus de subventions et qui gagnent le plus d'argent.
Bien sûr.
On parlait tout à l'heure de l'écologie, mais la paysannerie, les petits exploitants essayent de faire pour le mieux, hein, parfois, des fois, avec un petit peu de pesticides, mais en essayant de faire pour le mieux. C'est pas eux qui polluent, c'est principalement les gros, hein, pour faire le plus de marge possible. L'écologie peut rejoindre le monde de la paysannerie.
Oui, enfin, ça dépend de qui on parle. Hein. Mais normalement, je connais des amis, ils travaillent à l'INRAE. Et ils sont chercheurs et leur spécialité, c'est notamment l'agroécologie et tout ce qui tourne autour, qu'on appelle ça les insectes pollinisateurs, etc., etc. Quand tu discutes avec eux, c'est très intéressant. Hein. Je vais te donner deux informations, tu vois, qui sont pas mal. Quand tu discutes avec eux, Alors eux, bien sûr, ils nous disent, mais nous, on n'a pas de moyens. Donc, en fait, on pourrait trouver des solutions pour utiliser moins d'intrants, etc., moins de pesticides notamment. On peut, on sait qu'on a des pistes, mais on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas les budgets. Voilà, ça c'est le premier point. Et ça, c'est criminel parce que ça condamne... Ça nous condamne à une situation quand même qui est pas agréable, quoi. Quand tu vois la qualité des eaux, par exemple, des eaux qu'on boit, pas les eaux de...
Mais bien sûr, les eaux qu'on boit, voilà. Et puis même les maladies qui peuvent atteindre le monde paysan premier, hein.
Ah ben moi, j'utilise et manipule des produits, ils sont pas dilués, hein.
Donc c'est hyper dangereux.
Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit, hein, sur les confitos qu'on arrête et tout. Ça, c'est pas vrai, parce que moi, en tant que professionnel, les trois quarts des produits, on les a enlevés, hein, en viticulture. Hein. Donc, y a des choses qu'il faut remettre quand même en place. Mais puisque je parle de la viticulture, il faut savoir que techniquement, hein, je parle techniquement, en viticulture, on est capable d'avoir de la viticulture en ayant, allez, pratiquement zéro pesticide. On a des cépages qui sont résistants ou qui n'attrapent pas de maladies. On a ce qu'il faut pour labourer et travailler les sols. Donc, sauf qu'on ne le verra jamais. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que derrière, ça n'intéresse pas le commerce. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on le fasse. C'est là la nuance.
Dans le même ordre d'idée, il y a cette histoire de normes, hein, que tu as développée un peu dans le journal Le Point, PONG, parce que quand un agriculteur de la FNSEA parle de normes, c'est pas du tout la même chose que quand un paysan parle de normes. On ne parle pas de la même chose.
Non, on ne parle pas du tout la même chose. Alors, quand il faut être plus précis, je me permets d'être plus précis que ça. Quand tu es un responsable, même départemental, hein, de jeunes agriculteurs, de FNSEA, de coordination rurale, quand ils parlent de normes, ils ne mettent pas la même chose, parce qu'il y a deux catégories de normes. Il y a celle qui va de la bureaucratie, parce que ça existe, qui d'ailleurs, elle est là, elle arrange certains syndicats, monsieur, je ferme là, qui détiennent les chambres d'agriculture, je ferme la parenthèse. Donc ces normes-là, qui sont vraiment débiles, hein, franchement. Hein.
Mais je fais juste une parenthèse, qui sont débiles, mais qui vous prennent un temps de fou et qui vous rendent fou. Alors, parce qu'elles peuvent être contradictoires.
Non seulement ça nous prend du temps, mais c'est débile. C'est comme, tu sais, je ne sais plus quelle est dans la mythologie grecque, le mec est condamné à remonter une pierre, un rocher, chaque fois il redescend. C'est-à-dire, on te fait travailler, tu sais que ça ne sert à rien. Donc c'est pire que tout. Mais là, c'est ça. Tu sais que c'est un truc qui va te prendre du temps et qui ne sert à rien. Bon, bref. Donc, ces normes-là, tous les paysans, et moi le premier, il faut que ça s'arrête. Stop. Ouais. Sauf que les responsables de la FNSEA, eux, c'est pas de celle-là qui parle. Ou du moins, c'est pas uniquement de celle-là qui parle. Et d'ailleurs, ça a été lâché l'autre jour sur, je crois que c'était sur BFN TV, où on avait, alors c'est pas quelqu'un de la FNSEA, hein, c'est une espèce d'économiste là qui parlait en disant, oui, les normes, vous comprenez, elle empêche la concurrence, elle empêche la compétitivité, le coût du travail, vous comprenez, ça pèse sur le... Donc, en fait, c'est ces normes-là qui visent, c'est-à-dire le code du travail, notamment, etc., etc.
Ouais, les normes sur les pesticides, même si en France, c'est pas sans non coup. Plus... elles sont pas délirantes, hein, puisqu'on a vu que le glyphosate était encore renouvelé pour je sais pas combien d'années, alors qu'on connaît ses dangers pour la santé publique. Donc voilà, on parle, eux, ils parlent de ces normes-là, les normes du travail, sous-payer encore plus les gens quand on sait quand même que c'est pas délirant. Hein, ils sont très très mal payés et ils utilisent parfois aussi des ouvriers étrangers sans papier qu'on peut exploiter bien comme il faut. Et puis des pesticides hyper dangereux et puis le fait de pas mettre en jachère. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs, je connais pas tout, mais c'est ces normes-là dont ils parlent, eux. Alors que vous, quand vous parlez de la cessation des normes, c'est celles qui vous empêchent de travailler correctement.
Non, les normes ont servi aussi d'échappatoire à la question du prix. C'est-à-dire que stratégiquement, la FNSEA, elle s'est calée là-dessus, parce qu'elle a, comme c'est un syndicat de démagos, des démagos absolus, quand ils ont vu que sur la base parler du revenu et du prix, et que nous, on avançait une revendication qui était plus ou moins reprise sur les prix planchers garantis par l'État, ils ont trouvé ça pour dire non, mais les normes, non. Et il faut dire que les médias, hein, ils ont bien aidé, parce qu'ils ne parlaient plus que de ça. Les normes, les tracasseries, et ça servit à ça.
Et notamment aussi le fait d'avoir le champ libre, hein, c'est un peu ce que demandaient les gros de la FNSEA, le champ libre, et notamment concernant les bassines, puisqu'on a vu que ces derniers temps, il y avait beaucoup de luttes par rapport à l'eau, et notamment la construction subventionnée hein, par l'État de ces grosses, énormes retenues d'eau pompées dans les nappes phréatiques.
Après, il faut faire attention parce que le mot terme bassine, méga bassine, est souvent galvaudé. Moi, je suis dans une région où c'est catastrophique. Nous, c'est catastrophique. Il n'a pas plu depuis. Ouais. Donc, nous, il y a des projets de retenue collinaire. Mais dans un esprit, c'est comme ça que je le vois, hein, peut-être que je me trompe, mais dans un esprit, justement, pour échauffer. Les esprits, justement, ils ont appelé ça des bassines. Alors, de suite, ça a mis le feu dans le département, par rapport à Sainte-Soline. Et ça n'a rien à voir. Nous, c'est de la récupération d'eau de pluie, c'est des retenues collinaires.
C'est pas de l'eau qu'on pompe. Je crois qu'on comprend la différence entre le fait de pomper de l'eau des nappes phréatiques et puis de retenir de l'eau de pluie pour les saisons où il fait plus chaud et où il n'y a pas de pluie. Parce que c'est vrai que le Sud, il faut vraiment le dire, souffre de sécheresse qui handicape énormément à la fois les viticulteurs, mais aussi les maraîchers. Hein.
Ah oui, tout, mais là, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire parce qu'il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas, tout est à sec, la végétation et les pousses d'herbe sont. Il n'y a rien. Il va y avoir là bientôt les pêchers, les amandiers qui vont fleurir. Mais s'il n'y a pas de fleurs autre que les arbres, je veux dire, s'il n'y a pas de fleurs, comment font les abeilles? Bon, les apiculteurs, je ne sais pas comment ils vont faire. En fait.
No matter where I go, I am never satisfied.
Il y a tout un truc qui en est très, très inquiet. C'est la question, si tu veux, du traité qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Alors, on a d'un côté, nous explique que la planète chauffe, pas tant que fait, tout ce que tu veux, les paysans polluent, pour certains, ou d'autres disant, oui, mais vous êtes fous, vous n'êtes pas compte, le tatata. Ok, d'accord. Mais là, il va rentrer de la viande de Nouvelle-Zélande, du beurre. Non, mais du beurre, quoi. En France, on ne fait pas de beurre.
Non.
Du miel. Et ça va traverser, ça va faire 20 000 km. Non, mais les gars, il y a un truc qui ne va pas, là. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, je veux dire, ça aussi, ça participe... Au... Enfin, je veux dire, tu dis ça à un agriculteur ou tu dis ça à un ouvrier, il va te faire la même réponse. Il va vous dire, mais vous déconnez, vous marchez sur la tête, vous nous donnez des leçons en longueur d'année, et là, vous faites ça. Les apiculteurs, il faut savoir qu'en France, on manque de miel. Voilà. Mais les apiculteurs, donc quand on nous parle de l'offre et de la demande, ça me fait marrer. Les apiculteurs ont produit que 20% du miel qu'on consomme. 80% rentre de l'étranger. Mais ce qu'il faut que tu saches, et ce que vous sachiez, c'est que il est interdit à un apiculteur de mettre miel français.
Ah.
C'est interdit. Okay. Ou du moins, non, je m'exprime mal. Il est interdit d'interdire un producteur de mettre du miel 100% français, alors que dedans, il y en a 90% qui ne l'est pas. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Tu veux dire qu'à partir du moment où il y en a un petit peu, c'est
français. On peut mettre du miel France ou ce que tu veux. Alors, les apiculteurs demandent à ce que les vrais apiculteurs, les mecs qui font un travail consensueux, disent « Mais nous, on veut avoir le droit. Nous, on s'en fout qu'ils rendent du miel de l'extérieur. On s'en fout. » Mais au moins, qu'ils ne puissent pas mettre miel français parce qu'ils en ont mis 2 ou 3% dans le pot. Mmh. Et bien ça, ils l'obtiennent pas. Et non seulement ils l'obtiennent pas, mais on va faire rentrer de Nouvelle-Zélande du miel.
Non, mais c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une question climatique qui est vitale. Et pourtant, on a l'impression que rien n'est fait au niveau politique pour réduire toutes ces questions-là de réchauffement, de pollution, etc. Qu'on fait venir de Peta ou Schnock des produits qui pourraient être produits localement ou pas très loin, et qu'on favorise pas cette production-là, qu'on l'aide pas aussi à exister. Et que c'est toujours le fric qui l'emporte.
C'est le fric, et puis après, ça vient de te faire des leçons. Moi, je suis désolé, les leçons, merci, quoi. Mais quel est, qui pourrait inverser ça, si ce n'est justement que les ouvriers, les travailleurs, tout ce que tu veux, et les paysans disent, bon, maintenant, c'est nous qu'on va gérer la chose, parce que là, ça va pas.
Oui, je pense qu'on pourrait pas faire pire.
Alors, il y a un jeune là qui a du MODEF, là, qui a dit un truc, ça m'a fait plaisir parce que tu vois, j'avais pas pensé. Enfin, je sais pas que j'avais pas pensé, mais il l'a sorti lui-même et ça me fait plaisir parce que des fois, tu vois, tu te dis bon, je parle de dépolitisation, mais il y en a qui ne le sont pas. Mmh. Il expliquait à propos des mesures du gouvernement d'Egalim, 959 par Egalim, des mesures pour la crise paysanne, 959 millions d'euros, je crois. Il me dit, et en même temps, le gouvernement, il vient de signer 40 milliards pour l'armement, quoi. C'est vrai que c'est connu que les armes, ça pollue pas, quoi.
Dire que l'économie française tient sur le nucléaire et l'armement, c'est quand même vraiment, mais d'un mortifère absolument sinistre, quoi. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à être inquiets. Je voulais finir un peu là-dessus parce que là, on voit que partout, en Belgique, aux Pays-Bas, partout, la colère agricole le gronde.
C'est un ras-le-bol. C'est pour ça que bon, il faut faire très attention avec certains syndicats qui vous annoncent qu'en France, on nous fait plus de mal que dans les autres pays. Bah, si c'était le cas, ils ne se révolteraient pas, les autres pays.
Exactement. Et donc, il y a peut-être moyen de reprendre un peu langue avec d'autres paysans, d'autres pays européens pour essayer de peser, là.
Eh bien, il existe une organisation au niveau européen qui s'appelle la Campesina.
Exact. Mmh.
Voilà, et maintenant, est-ce qu'elle est à la hauteur? On peut se poser la question. Mais l'organisation existe. Et moi, je me rappelle au tout début où j'étais au MODEF, on avait des relations très fortes avec des syndicats, notamment espagnols, des chevriers, notamment, je me rappelle, où on est allé à des. Voilà, on se rencontrait. Mais tout ça a été, bon, voilà.
C'est dommage parce que visiblement, les Espagnols ont les mêmes problèmes, vraiment, quoi. Et notamment de sécheresse.
Ouais, c'est pire que nous.
C'est encore pire.
En Catalogne, c'est pire que nous. Mais nous, je pense qu'on va devenir comme eux. Hein.
Bon, bah écoute, pour finir sur peut-être une petite... pour voir un petit peu comment tu vois les jours, les semaines à venir.
Moi, je pense que... En fait, pour donner une image, on a un gouvernement... avec un syndicat agricole qui est assis sur une poudrière et ils ont le briquet à la main. Et à tout moment, les choses peuvent exploser parce que la situation est telle que bien malin celui qui pourra dire ce qui va arriver demain. Parce que là... Là, je pense que bientôt, les viticulteurs, ils vont rentrer dans le... Parce que ça gueule en bas. Les jeunes, là, ça bouge. Hein. Donc, je pense que les viticulteurs risquent de reprendre le relais, le flambeau. Et les pêcheurs, bon, sont pas loin. Donc, c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini.
OK. OK. Ben écoute, je te remercie beaucoup Didier Cadea du MODEF de nous avoir donné un peu d'éclairage sur ce mouvement. Merci beaucoup.
Aller chercher le fumier dans le champ et le déverser chez le clerc. Il doit maintenant être habitué, on y retourne chaque année et rien ne change, bien au contraire. Lui qui défend le pouvoir d'achat, son rond de serviette dans les médias en se prenant pour l'abbé Pierre. Comme d'autres, il nous pourrit la vie, et quand on trouve un compromis, ce sont ses intérêts que l'on sert. Du fumier haut, si ça dure, sera livré devant la préfecture, histoire de dire notre rancœur. Ils nous attendent sans aucun doute, on se fera même ouvrir la route par des motards en éclaireur. Le syndicat majoritaire sera convoqué au ministère, sortira avec le sourire, heureux d'avoir trouvé un accord afin d'améliorer notre sort, et on continuera de souffrir. C'est déjà tout vu pour beaucoup. La vie continue sans le sou. Bizarre que le premier ministre n'ait pas trouvé les artifices afin de calmer la colère. Appuyé sur son ballot de paille, il pensait avoir fait le travail, et ça lui coûtait déjà cher. Il faudrait pas que ça tourne mal, des tracteurs dans la capitale qui remettent en cause sa cote. Il se démène un peu partout pour essayer de trouver des sous. Je crains qu'il échauffe dans ses bottes les pieds qui suent caoutchouc. Si ça continue, chaussettes à trous, moi je voudrais pas être à sa place, passer de l'école au cul des vaches et régler toutes les querelles. J'espère qu'il est bien défrayé, sinon Thérèse peut lui montrer pour toucher les primes de Bruxelles. Tu verrais comment que ça l'agace de remplir des tonnes de paperasse pour se rendre compte au final que c'est toujours le même refrain, c'est ceux qu'en ont le moins besoin qui touchent le plus et se régalent. C'est peut-être voulu après tout, si ça continue, ce sera sans nous.
Et nous allons passer à la seconde partie de cette émission traitant des mobilisations des agriculteurs de ces dernières semaines. Nous nous entretiendrons ainsi par téléphone avec deux personnes ayant été sur des blocages, Nathalie tout d'abord dans le département du Cher, puis Sylvain ensuite en périphérie de Paris.
Eh bien, écoute, toi, tu es en région, tu vas nous dire où. Et puis, tu as été, alors tu n'es pas paysanne, mais tu as été soutenir le mouvement des paysans et des agriculteurs, pas loin de chez toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, où c'était, qu'est-ce que c'était comme mode d'action?
Ah oui, alors moi, je suis donc en région centre, pas loin de Bourges. Et donc, j'ai rencontré des paysans et des paysannes. Et c'est parce que je les ai rencontrés que je suis allée après les soutenir. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie donc de la conf paysanne et défendent un petit peu ils défendent la paysannerie et une agriculture qui n'utilise pas d'intrants. Et quand on parle d'intrants, c'est tout ce qui est pesticides, insecticides, néonicotinoïdes et patati et patata. Et donc je suis allée les soutenir. Et, ils ont bloqué mercredi dernier à 13h la centrale d'achat de Carrefour. Et du coup, je suis allée les rejoindre. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que la FNSEA était pas très loin, en train de bloquer un rond-point avec et ils faisaient brûler des pneus. Mais on n'a eu aucune communication avec eux. Hein. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi, parce que ça, on défend pas du tout la même chose. Par contre, la mobilisation a bien réussi, c'est qu'on a bien emmerdé Carrefour qui venait nous voir via son chef de la plateforme logistique, à nous dire moi j'ai des steaks à sauver, j'ai du frais à sauver, laissez passer au moins un camion. Et donc nous on a dit non, on fait rien passer du tout. Sinon si on en fait passer un, on les fait tous passer. En fait, ça n'a pas de sens non plus. Donc, on a appris quand même qu'ils perdaient énormément d'argent chaque jour, mais c'était de l'ordre de... Ça se chiffre à 1 million d'euros. Et j'ai plus les chiffres en tête. Et ce qu'on a appris aussi, c'est qu'ils fournissaient les Restos du Cœur, mais que les Restos du Cœur n'étaient même pas en capacité de recevoir tous les dons alimentaires de Carrefour. C'est-à-dire que, ça peut précision assez importante, c'est-à-dire que Carrefour a toujours des pertes dans ses produits alimentaires. Donc, ça chiffre aussi à une dizaine, vingtaine de palettes, donc c'est énorme, et c'est jeté. Alors, bonjour l'excédent alimentaire, là, on peut dire aussi. Voilà, donc je reviens à notre sujet. Donc on a tenu, il y avait de la solidarité, on était une vingtaine un petit peu à chaque fois, le vendredi, les flics sont venus, le lendemain, la FNSEA a dit qu'elle arrêtait le mouvement. Donc on s'est dit tiens, il y aurait eu une relation.
Il se réveille.
Et voilà, et donc on a téléphoné au préfet qui était en réunion avec les syndicats en lui demandant si c'est lui qui avait donné l'ordre de nous jeter. Le préfet a juré ses grands dieux que non. Et donc, on soupçonne que c'est peut-être Galu, le maire de Bourges, qui est un sosdem de première et pas du tout... il soutient aucune lutte. Entre les deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, le préfet avait l'air d'être sincère. Mais est-ce qu'un préfet est sincère ? C'est une autre question. Voilà, et donc la police est venue à 15. On n'était même pas 15 à cette heure-là, hein, parce qu'il y a des creux hein, dans toute mobilisation quand on reste statique. Mais après, on a eu les copains qui sont arrivés. Et on a décidé de démonter. On n'était pas du tout en nombre suffisant pour tenir. J'ai réclamé aux flics la réquisition du procureur hein, pour nous mettre dehors, nous empêcher. Il a dit que ça n'existait pas et que donc il constatait un flagrant délit. Mais je lui ai dit un flagrant délit de 3 jours, ça n'existe pas non plus quoi. Voilà. Et ça s'est terminé comme ça. On a tout remballé. Donc je précise que la Confédération paysanne, pourquoi elle continue la lutte parce que elle ne vit absolument pas de ce qu'elle produit. Que Carrefour, c'est une des multinationales qui achalande ses fruits et légumes avec le Mexique, la Colombie, enfin tous les pays du monde possible, la Tunisie, le Maroc, voilà, très peu de produits français, même dans le bio, puisqu'on a été vérifié. et c'est eux qui font la pluie sur le bon temps et le beau temps avec leur centrale d'achat. Et puis la Confédération paysanne, elle veut absolument une agriculture saine, parce qu'il faut savoir que toutes les il y a plus aucune rivière qui n'est pas polluée en France, et que la terre est tellement polluée que dans certains endroits on pourra plus la cultiver. Ça va faire un espèce de sable. Donc on marche sur la tête. Donc il y a des choses qui sont incompréhensibles. Des décisions. Ou alors, en secret, secrètement, il y a des cultures, il y a des laboratoires qui travaillent à des cultures hors sol, des steaks hors sol, et c'est notre futur. Bon, alors, faut choisir, quoi. Voilà. Ouais, voilà mon témoignage. C'était une question. Ouais, vas-y.
Et hier, tu étais encore sur une action ?
Alors, du coup,
dimanche,
on a fait une petite réunion. Une fois qu'on a tout débarrassé, on a fait une petite réunion. On s'est dit, on ne va pas lâcher quand même comme ça. Et hier, on est allé donc hier matin au plus grand carrefour de Bourges, qui est énorme, un très grand carrefour. Et on a posé un stand avec des fruits et légumes bio. Et on a tracté sur Carrefour. En expliquant ce qu'était Carrefour et en expliquant aux personnes qui viennent acheter à Carrefour, ben peut-être d'éviter Carrefour. Et voilà. Donc on a été très bien accueillis, mais à chaque fois, hein, les gens ils disent qu'ils sont solidaires, mais à chaque fois les gens ils continuent quand même d'aller en grande surface. Alors beaucoup disent que c'est le prix. Ça, on n'a rien à dire parce qu'on peut pas. Quand les gens n'ont pas les ressources, c'est vrai que le bio est souvent plus cher. Mais il n'y a pas que ça, parce que on a été vérifier des prix. Alors il y a des produits bio qui sont plus chers, mais il y a des produits bio qui sont moins chers que ce que Carrefour propose. Ouais. Carrément. Donc, faut tester, faut aller les deux. Et on pense aussi qu'il y a une habitude chez les gens de tout trouver au même endroit. Hors campagne, on peut trouver son fromage, on peut trouver son huile, on peut dans les fermes. Il suffit d'un petit peu de circuler.
Après le jour de l'an, c'est le tour de l'épiphanie. Une fève dans nos bouches, une couronne sur nos têtes. C'est avec notre blé qu'ils se farcissent leurs galettes. On se fait rouler dans leur farine de blé. Ils y trouvent leur beurre, bientôt la chandeleur. C'est nous les pauvres crêpes qui nous faisons étaler. On se fait tout sucré et la note est salée.
Du coup, toi Sylvain, tu as été devant les blocages. Alors tu vas nous dire où, dans la région parisienne. Et tu vas nous dire un petit peu ce que tu as vu et comment, quelle ambiance et quel accueil.
Alors c'était le moment du siège de Paris, donc ce qui était présenté comme par la FNSEA et les JA comme le siège de Paris. Donc c'était sur l'autoroute A6 en direction de Paris, à quelques kilomètres du marché de Rungis. Donc il y avait plusieurs convois qui bloquaient 8 autoroutes d'accès à Paris, donc là j'étais sur l'A6 et... on était deux, on s'est rendu là-bas en prenant des petites voies détournées parce que tout était bloqué et quadrillé par la police, donc voilà. On a réussi à passer par une petite contre-allée et on se posait la question de comment y accéder, parce que donc il y avait des flics qui rôdaient un petit peu partout et qui n'avaient pas très très envie que les agriculteurs soient rejoints par d'autres personnes ou que les agriculteurs rejoignent d'autres personnes. Et donc, on se posait la question de comment passer les grilles au moment où un énorme car est arrivé en marche arrière avec des agriculteurs qui ont balancé toutes les barrières et foutu tout sur le côté pour y accéder. Et en fait, c'était un car qui était affrété par les jeunes agriculteurs de Dordogne. Donc, ils avaient pris le car depuis la Dordogne. Ils étaient partis à 5h du mat et il était 23h quand on est arrivé, nous. Donc, ils ont mis... beaucoup de temps sur la route pour venir jusqu'à Paris. Et donc, c'était une quarantaine de jeunes agriculteurs, profil très très varié, qui ont débarqué en soutien au blocage. Donc, ils sont arrivés avec plein de bouffe, plein de ravitaillement. L'ambiance était super sympa. On sentait de la détermination, on sentait une envie de rejoindre les agriculteurs sur le blocage et de faire ça tous ensemble, en apportant plein de provisions. Donc on s'est joint à eux pour décharger les provisions. Les flics avaient une attitude très 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 sympathique, ce qui contraste beaucoup quand on a connu d'autres mouvements. La seule question qui a été posée, c'est: vous êtes combien? Ils ont répondu 40, et ensuite absolument rien. Donc c'était limite, ils nous aidaient pas à décharger les vivres. Et donc on est descendu avec eux, puis on a commencé à discuter avec un petit peu les différents agriculteurs qui étaient là. Donc de tout, des apiculteurs, des viticulteurs, des céréaliers, polyculture élevage, etc. Vraiment un profil très très diversifié. Beaucoup de gens qui arboraient pas de logos syndicaux. Il y en avait qui arboraient des logos syndicaux, mais la majorité en avait pas. Il y avait à peu près 200 personnes, une grosse cinquantaine de tracteurs quand même, au moins. Voire plus, grosse logistique, des toilettes chimiques, des préfabriqués carrément, tout le matériel pour dormir dans le tracteur de nuit, gros duvet, très chaud, etc. Donc très très bien organisé, très carré. On sentait que c'était un pilotage syndical très très carré.
Et fortuné aussi.
Et fortuné, effectivement. Et pour transporter tout ça, il faut effectivement de l'argent. On leur a posé pas mal de questions donc sur leurs revendications, sur leurs moyens de s'organiser, etc., etc. On a bu un coup avec eux, donc c'était très, très sympa. Donc sur la façon de s'organiser, ils ont répondu qu'en fait c'était les syndicats qui coordonnaient. Il n'y avait pas de groupe auto-organisé d'agriculteurs sur WhatsApp ou quoi, etc. pour échanger les infos. Visiblement c'est le syndicat qui pilote et qui fait suivre les infos, à quel endroit il faut être, à quelle heure, etc., etc. Et sur leurs revendications, on était sur quelque chose d'assez classique dans ce qui est demandé par la FNSEA, donc sur les normes agricoles, notamment sur les questions environnementales, etc., sur la concurrence déloyale, énormément de choses qui revenaient sur l'importation de produits de l'étranger qui sont interdits de produire chez nous parce que nous, nos normes, elles sont plus fortes.
Nos normes seraient plus fortes.
Nos normes seraient plus fortes, effectivement. Merci de la correction. Et donc, voilà, c'était ce discours-là avec des variations. On sentait que tout le monde n'était pas non plus exactement sur la même ligne dure FNSEA, mais le discours il était quand même bien là. Et ensuite, en discutant avec différentes personnes, on était repéré par un apprenti bureaucrate des jeunes agriculteurs, des JA, qui nous a dit sur un ton très agressif, nous a demandé ce qu'on foutait là, nous a dit qu'on buvait un coup sur l'ordonnier, quoi, que la bière qui avait été ramenée, presque on leur ôtait le pain de la bouche, les pauvres pitchounes. Donc ton très agressif, on leur a dit, écoutez, je sais pas, nous on est là pour en soutien au mouvement des agriculteurs, on vient débattre, on vient poser nos questions, on vient essayer d'élargir le truc, de comprendre, en soutien quoi. Et visiblement, maintenant, ils voulaient pas de soutien. C'est le mouvement des agriculteurs, rentrez chez vous, dégagez, vous êtes du coin, machin, etc. Donc on s'est fait un petit peu chahuter, donc on a cherché à rester, on s'est faufilé, etc. Le type nous suivait, nous montrait du doigt et commençait à rameuter ses copains. C'est le moment où on s'est dit que deux personnes contre 200 agriculteurs, c'était le moment de se barrer. Donc on a pris la tangente en étant un petit peu vénère, quoi, de que ce soit passé comme ça. Mais ça a illustré en fait qu'est-ce que c'était ce mouvement. C'est très hétérogène entre la province et Paris, entre ceux qui viennent au siège de Paris, qui ont besoin d'une logistique syndicale et d'une bureaucratie syndicale, et ceux qui sont sur leur petit rond-point en province, en train de bloquer avec des revendications très diverses et qui sont au contact de la population. On était sur un truc ici caricatural qui était celui du spectacle syndical. Ils ont besoin pour négocier de ce petit rapport de force qui est instrumentalisé complètement par les syndicats au détriment des revendications de base de ceux qui sont sur le terrain. Et donc c'était assez instructif.
Ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'école Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, donc bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.